Voyage à travers les mots qui dérangent. Et ici, je veux dire, c'est un peu, pas uniquement un mot, mais une expression. C'est l'expression le péché originel ou le péché ancestral. Tout à l'heure, je vous disais une parole de Saint Basile le Grand. Maintenant, je le dis. L'homme est un animal qui a reçu vocation de devenir Dieu. Alors cette phrase résume bien finalement la destinée de l'homme et son évolution nécessaire. Et au XXIe siècle même, puisque nous sommes en passé 2000, la science ne met plus aucun doute sur le caractère évolutif de l'humanité. Souvenez-vous déjà qu'au XIXe siècle, Darwin avait établi une théorie de l'évolution montrant que l'homme était le fruit d'une évolution venant d'un primate supérieur, dirions-nous déjà, type orang-outan ou gorille. Et on peut dire que la vie d'ailleurs sur Terre remonte à environ 3,5 milliards d'années. Et les recherches récentes ont tendance à montrer que le type hominidé, donc ce qui ressemble à un homme, s'est différencié des chimpanzés il y a plusieurs millions d'années, et on remonterait même jusqu'à 7 millions d'années. Alors la difficulté, c'est toujours de déterminer à partir de quand nous pouvons l'appeler l'homme. L'origine de l'homo sapiens, sur lequel semblent s'accorder les dernières théories comme étant la filière d'où descend l'homme, tel qu'anatomiquement nous le connaissons aujourd'hui, remonterait à environ 300 000 ans. Et la génétique montre que nous avons encore aujourd'hui dans nos gènes des gènes que l'on retrouve aussi dans différentes espèces animales. Alors la création telle que décrite dans le livre de la Genèse semble donc percuter, peut-on dire, cette réalité scientifique. Et si nous voyons en Adam le premier homme fini duquel nous descendons, on peut se poser peut-être des questions. Mais la création, comme je vous ai dit, ne fut pas un processus accompli une fois pour toutes en une semaine, mais un processus évolutif, progressif, et qui se continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors dans l'histoire de l'Église, un malentendu, peut-on dire, a conduit à une mauvaise interprétation du mot « Adam ». Lorsque les textes hébreux parlaient de « A-Adam », donc « H-A-A-D-A-M », ce qui signifie « l'Adam », ils ne parlent pas d'un individu singulier, un « Monsieur Adam », mais c'est un substantif qui signifie « l'homme », « les hommes », « l'ensemble de l'humanité », donc au sens collectif. Alors les chapitres 2 et 3 de la Genèse ne nous enseignent pas l'histoire d'un péché commis par un individu appelé Adam, mais il veut nous dire quelque chose sur l'homme pris dans son ensemble, donc sur l'humanité au sens collectif. L'homme a été créé par Dieu à son image et Dieu vit que cela était bon. La nature de l'homme, la nature humaine est bonne. Elle est l'œuvre de Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? D'où est-il venu? Alors, c'est une question que je ne vais pas aborder, c'est une question épineuse que des armées de théologiens ou des armées de philosophes ne cessent d'étudier, mais ça nous éloignerait peut-être un petit peu. Si on revient à la création, les philosophes ont deux points de vue sur la création. disons que le premier, c'est l'école un peu de Platon. Il y a un dieu premier, duquel va émaner un dieu second, qu'on appelle le fils de Dieu. Puis un troisième dieu, l'âme du monde. Et ensuite va émaner, toujours du dieu premier, des êtres humains, spirituels, mais sans corps. Alors tout ce petit monde est dans un paradis, dans le paradis même. C'est parfait, c'est la perfection, c'est le monde des esprits, le monde des idées. Mais Platon, qui n'est pas un imbécile, se rend compte qu'il y a une différence entre ce monde premier, parfait, et le monde dans lequel il vit, qui lui est loin d'être parfait, puisqu'on y souffre, on y meurt. Il y a donc pour Platon quelque chose qui s'est passé à cause d'une faute. Nous avons perdu le paradis et nous avons été expulsés. C'est la chute des âmes, donc des entités spirituelles dans le corps, dans la matière. Et la matière est donc l'adversaire du spirituel originel qui est divin. Pour lui, donc, personne n'échappe à cette faute originelle qui a eu lieu avant, on ne sait où. Et le monde présent est là comme une punition. L'objectif de l'âme est donc d'essayer de retrouver son état paradisiaque en se débarrassant de ce corps pesant et vil. Et plus la faute est importante, et bien plus la chute sera profonde dans une matière de plus en plus vile. Et on peut dire que Platon était presque à l'origine de la misogynie, puisque tomber dans un corps d'homme était signe que c'était moins mal que de tomber dans un corps de femme, et même après de tomber dans un corps d'animal. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette philosophie, finalement, à cette époque, a fortement influencé, finalement, la conduite de la société. Et qu'on en paie peut-être encore aujourd'hui cette vision parfois misogynique. Nous savons aussi, par les découvertes scientifiques, qu'en plus de la matière, des atomes et des molécules qui composent l'homme, et ces atomes ou ces molécules finalement sont communs à chaque être vivant, il y a dans le corps une information, un message génétique informé qui différencie chaque homme et qui en fait un être unique. Alors l'autre vision philosophique a été de dire que plutôt d'une régression, je vais dire, du monde d'un état paradisiaque à un état matériel, le monde se construit petit à petit, du plus simple au plus complexe, par étapes successives de maturation. Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Mais parce que l'interprétation de la Bible, finalement, a été influencée au cours des siècles par ces deux visions philosophiques. Une vision de régression et une vision d'élévation. Alors on peut dire, mais est-ce que nous retrouvons cette notion de chute dans la Bible ? Eh bien, je ne pense pas. La soi-disant chute dans la Bible fait suite à des interprétations erronées des textes bibliques influencés justement par ces différents courants philosophiques. Si vous prenez une Bible, si vous prenez l'Ancien Testament, la Genèse, vous n'allez pas trouver, excepté dans les titres, le terme de chute. Pour les théologiens hébreux, l'homme a été créé par Dieu pour le bonheur. Et on le retrouve aussi dans ce que nous croyons actuellement. Il vivait dans un état paradisiaque où il ignorait la distinction entre le bon et le mauvais, entre le bien et le mal. Et lorsque l'homme a réalisé qu'il avait la possibilité de faire des choix conscients, il a choisi des voies qui sont venues contrecarrer son épanouissement. Pour prendre un peu une comparaison, lorsque nous regardons un petit enfant, il est dans l'ignorance de ce qui est bon ou mauvais. Et il est entièrement dans la confiance de l'amour de ses parents. Et ce n'est que lorsqu'il accède à une maturité qui le met face à des choix, qu'il va prendre conscience que son choix peut avoir une conséquence bonne, ou disons mauvaise, sur lui et sur les autres. Les théologiens hébreux enseignent ainsi qu'à partir des premiers chapitres de la Genèse, que l'homme, d'une certaine façon, est responsable de son malheur. L'humanité n'est par nature n'est pas mauvaise, elle n'a pas été créée mauvaise, mais l'homme a une faculté qui est la liberté de choisir des options qui ne sont pas bonnes pour la vie. Lorsqu'on a traduit de l'hébreu en grec entre le XIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ, je veux dire avant notre ère, lorsqu'on a traduit Adam ou le A Adam, ce fut le plus souvent avec le terme anthropos, qui signifie l'homme, justement, dans son sens collectif. Mais il y a certains passages qui sont restés avec Adam, et qui a été alors retenu comme un nom propre. Et bien plus tard, et même saint Paul avait vu parfois Adam comme un homme, un individu. Et dans sa fameuse épître romain, le chapitre 5, les versets 12 à 14, il disait « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, ce sont bien deux individus, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Dans son épître aux Corinthiens, il dira aussi, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Alors si vous regardez le Christ, quand il ne parle jamais du péché d'Adam. Il parle du péché de l'homme ou du péché du monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que saint Paul avait parfois vu justement Adam comme un homme, mais qui perçoit malgré tout une notion d'évolution pour l'homme, d'un état animal vers un état spirituel. Et il dit, c'est dans son épître aux Colossiens, « C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Ou bien il dira aussi dans son épître aux Colossiens au chapitre 13, là-bas, « Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Ou encore, et c'est dans son épître aux Éphésiens, « C'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors l'homme nouveau dont il parle, bien sûr, c'est le Christ, mais c'est aussi l'humanité qui est appelée à devenir semblable au Christ. Et l'homme est ainsi appelé à une évolution d'une animalité vers un être spirituel, un homme nouveau, divinisé. Alors on peut dire que c'est le philosophe Philon d'Alexandrie, qui était un disciple et un admirateur de Platon, qui a vu dans le récit de la Genèse, le premier récit de la Genèse, l'illustration de la chute décrite par Platon. Et pour lui, dans Genèse 1, Dieu a créé un homme, une humanité d'avant la chute, dit-il, qui était une humanité céleste, une humanité spirituelle, parfaite, bonne et heureuse, et une humanité après la chute, dans Genèse 2, une humanité terrestre, matérielle et mortelle. Et Origène aura aussi la même vision de ce texte de la Genèse. Il y a donc ainsi deux courants opposés qui ont interprété la Bible suivant leur vision philosophique. Donc, un premier courant, épousant les thèses de Platon et qui voit une chute dans la matière mauvaise, et un courant hébreu qui voit une création où tout est bon, même la matière, et où l'homme à la faculté de choisir librement comment évoluer. Et certains courants théologiques, influencés par Platon et que l'on appellera les gnostiques, vont continuer à avoir d'abord un homme achevé, parfait, qui chute dans la matière mauvaise. L'Église orthodoxe a combattu cette vision gnostique, et principalement Saint-Irénée de Lyon, au IIe siècle, qui écrivait « Nous croyons que le Dieu unique trois fois saint souhaite donner à l'homme l'immortalité et lui faire partager sa vie divine. » L'Église appelle cela la théosis. Alors c'est le nom savant de ce que le Christ nommera plus tard par les termes de « royaume des cieux »,« royaume de Dieu », l'union à Dieu, la divinisation, partager la vie divine, la sainteté, le paradis, le ciel. Dieu nous a fait inachevés afin que nous participions librement avec lui à notre propre achèvement. Dieu opère et l'homme coopère à son achèvement. Saint Irénée, comme je vous ai dit, ne parle pas du tout d'un péché originel. Et à juste titre, puisque dans la Bible, l'expression, le mot péché originel ou péché ancestral n'existe pas dans le livre de la Genèse. Et on peut dire, pour en tout cas Saint Irénée le dit, ni même l'idée. On ne parle pas de chute, finalement, mais d'une mauvaise utilisation de la liberté de l'homme. Et nous verrons plus loin comment la liberté de l'homme apparaît aussi dans l'évolution. Alors la traduction latine de la Bible n'a rien arrangé et elle a laissé Adam là où les Grecs avaient laissé, la traduction grecque avait laissé le mot Adam. Et les premiers conciles ont souvent d'ailleurs suivi cette logique d'un homme comme le responsable du péché dans le monde. Mais celui qui va réellement introduire la notion de péché originel, c'est Saint Augustin au IVe siècle. Et pourtant, Saint Augustin avait une bonne intuition. Il avait dit que l'on peut connaître le Créateur finalement par deux livres. Le livre de la Révélation, qui est la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et le livre de la nature, le livre du monde, de l'univers, autrement dit, la création. Plus nous avançons dans le développement de notre intelligence et plus nous sommes à même de voir la beauté de la création, de voir sa complexité, sa grandeur. Et pour prendre un exemple, c'est que dans l'Antiquité, si on regarde un peu la vision du monde que l'on avait, eh bien on disait que la Terre était le centre fixe de l'univers et que le Soleil et les étoiles tournaient autour de cette Terre. Et il aura fallu attendre le XVIe siècle avec Copernic et Kepler pour comprendre que la Terre tournait autour du Soleil. Et puis Newton, au XVIIe siècle, va apporter les lois de la mécanique céleste avec la gravitation universelle. Et au XXe siècle, c'est Einstein et c'est Georges Lemaire qui vont ébaucher des lois qui régissent l'univers et sa naissance, avec la théorie de la relativité et la théorie du Big Bang. Et puis maintenant, on peut dire que les découvertes de la mécanique quantique nous apportent encore une vision plus large de la réalité des choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que les auteurs de la Bible ont exprimé une vision imagée et parfois poétique de leur compréhension de la création avec leur connaissance du moment. Il voulait montrer comment Dieu agissait dans sa création, mais avec leurs mots et leurs connaissances. L'intuition des auteurs de la Bible n'était pas mauvaise, elle était simplement en ligne avec leurs connaissances du moment. Et aujourd'hui, la connaissance scientifique permet d'expliquer la complexité de la création. Et la foi et le livre de la Révélation nous permettent de comprendre le but de cette création. Et on voit donc que les deux approches, l'approche scientifique et l'approche de la révélation, des récits de la Bible, sont deux approches qui sont invitées à coopérer. Alors au départ, quand saint Augustin a établi sa notion de péché originel, il voulait répondre au moine Pélage. Le moine Pélage était un moine du IVe siècle, un moine breton, et qui soutenait que l'homme, par sa seule volonté et son libre arbitre, peut ne pas pécher et qu'il peut se sauver. Et il s'opposait ainsi, finalement, avec la doctrine que lui présentait, commençait à présenter saint Augustin, donc la doctrine du péché originel. Il acceptait quand même dans la doctrine ce que l'Église catholique appelle les limbes pour les enfants morts sans baptême. Et on en reviendra un peu plus tard sur cette notion de limbe. Donc pour Pélage, les hommes ne doivent pas supporter le péché originel, le péché d'Adam, qui n'a eu de conséquences néfastes que pour Adam et pas pour ses descendants. Alors saint Augustin, pour contrer cette vision, donc, va s'appuyer sur les écrits de saint Paul, qui, comme nous l'avons vu, donc, voyait parfois en Adam un homme historique et non pas l'humanité. Et saint Augustin a construit sa théorie du péché originel, commis à partir d'un seul homme, comme saint Paul donc, l'avait écrit en Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et dans son livre de Libero Arbitrio, il écrivait « Ici se présente cette fameuse question que les gens ont coutume de ruminer en murmurant entre eux, eux qui sont toujours disposés à accuser n'importe quoi lorsqu'ils pêchent plutôt qu'eux-mêmes. Voici ce qu'ils disent. Si Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que nous avons fait, nous malheureux, pour naître avec la cécité de l'ignorance, les tourments de la difficulté? D'abord, nous nous trompons sans savoir ce que nous devons faire. Puis, lorsque les préceptes de la justice commencent à nous être découverts, nous voulons les accomplir, mais nous ne le pouvons pas, car nous sommes retenus par je ne sais quelle nécessité de la concupiscence charnelle. Autrement dit, quoi que nous fassions, Adam et Ève ont péché et nous emportons les conséquences malgré nous. Du fait même de notre naissance, nous avons hérité dans notre nature la faute du premier homme et la culpabilité. C'est assez dur à entendre. Alors saint Augustin y voyait justement trois conséquences de la cause du premier homme. En un, il disait bien tous sont damnés. Nous constituons une masse de boue, la massa damnata, comme il disait, mais il ajoutait, seul Dieu et lui seul décide de qui il va sauver ou non. C'était ce qu'il appelait la théorie de la prédestination, qui heureusement n'a pas été acceptée et reconnue par l'Église au Concile de Carthage en 418. Et saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, au XIIIe siècle, va renforcer cette position de l'Église qui avait été prise au Concile de Carthage en disant « Ce qui est naturel à l'homme, cela n'a été ni enlevé ni ajouté à l'homme à cause du péché. Et si Dieu a communiqué aux êtres créés sa ressemblance quant à l'exister, il est normal qu'il leur ait communiqué aussi sa ressemblance quant à l'agir, en sorte que les êtres créés puissent avoir leur action propre. » Alors plus tard, au XVIe siècle, sont apparus Calvin et Luther, et au XVIIe siècle, Cornelius Jansenius, qui vont revenir avec cette théorie de la chute d'Adam, en disant que la nature et l'essence de l'homme sont totalement corrompues. La volonté de l'homme et sa liberté sont ruinées à tout jamais, et seule la grâce de Dieu peut les sauver. C'est-à-dire que quoi que fasse l'homme, il ne peut être sauvé que si Dieu le veut. Alors, heureusement, le Concile de Trente va refuser ce rôle de marionnette de l'homme entre les mains de Dieu. Dieu donne sa grâce à tous, et à cette grâce, les hommes donnent librement leur assentiment, et ils coopèrent. Dieu touche le cœur de l'homme par l'illumination de l'Esprit-Saint, mais l'homme ne reste pas sans rien faire lorsqu'il reçoit cette illumination, car il peut la rejeter. La deuxième conséquence que voyait saint Augustin dans le péché originel, c'est que la mort existe parce que le premier homme a péché. Alors ce point, lui, fut accepté par l'Église au Concile de Carthage en 418. Et on peut dire que malgré tout, si vous écoutez autour de vous, il reste encore fort ancré dans notre pensée, dans notre tête. Et aujourd'hui, pourtant, avec les connaissances scientifiques que nous avons, est-ce que cette affirmation de saint Augustin est correcte? Est-ce que c'est parce que l'homme a péché qu'il est mortel? Ben, je vais vous dire que la mort physique, parce que c'est de celle-là que l'on parle pour le moment, la mort physique n'est pas une conséquence d'une faute originelle. Car depuis l'apparition de la vie physique sur Terre, je vous ai dit, ça fait à peu près 3,5 milliards d'années, eh bien les animaux, les singes et l'homme meurent. C'est une loi physique de la vie matérielle et non une punition divine. Tout ce qui est formé est appelé à être un jour déformé. Ce qui est assemblé est un jour désassemblé. Mais entre son moment de formation et son moment de déformation, il va se passer une transmission où on va reformer quelque chose d'autre qui va aussi se reformer et ainsi de suite. Et c'est ce qui donne finalement l'évolution. La nature humaine est créée bonne, mais elle est mortelle depuis qu'elle existe. Et la Bible finalement ne contredit pas cela. En Genèse 3, 22, il est dit, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchez-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Si c'est l'arbre de vie qui permet à l'homme de devenir immortel et éternel, cela veut dire qu'il ne l'est pas. Qu'il ne l'est pas encore, qu'il est mortel. Et l'arbre de vie, c'est la vie en Christ. Et quand saint Paul parle de la mort qui est liée au péché, c'est de la mort spirituelle, celle qui nous éloigne de Dieu et de notre accomplissement divin, pas de la mort physique. Je crois que ça, c'est une notion importante. Mourir, l'homme meurt depuis que la vie est apparue sur la terre. Et toutes les cellules vivantes sont appelées un jour à mourir. Nous avons dans notre génome, je vous disais, donc des caractéristiques, des gènes, des instructions écrites. Certains remontent à nos ancêtres, à des formes de vie archaïques, des formes animales. Donc nous venons d'organismes monocellulaires et nous nous complexifions justement de génération en génération. Notre cerveau, notre intelligence se développe en ajoutant une couche de complexité supplémentaire. Et si vous regardez, d'abord nous avons toujours un cerveau reptilien et un hypothalamus. C'est ce qui était responsable, qui est toujours d'ailleurs responsable de la gestion des fonctions essentielles de l'homme, comme la respiration, le rythme cardiaque, le contrôle de sa température, le développement de cellules, le système endocrinien, etc., et qui a permis de développer un système de réflexe, de survie, ce qu'on appellerait un instinct. On peut dire que ce cerveau reptilien est semblable à un programme automatique qui exécute des ordres sans réfléchir. Si ceci se passe, alors faire cela. Il ne va pas plus loin. Et puis un cerveau est venu à s'ajouter, avec les mammifères, un cortex limbique. Cortex qui commence déjà à mémoriser et qui joue un rôle important dans la gestion finalement des états émotionnels et comportementaux et qui commence déjà à prendre certaines décisions. Et puis le troisième cerveau qui s'est développé, c'est le néocortex, qui a, lui, une faculté renforcée d'intelligence, qui permet d'analyser, un cerveau qui permet la logique, qui permet le langage, qui permet d'avoir une idée des représentations spatiales, de pouvoir se représenter spatialement les choses, qui permet de définir des concepts abstraits, qui a les commandes motrices volontaires et qui nous ouvre ainsi sur la conscience. Alors je vous disais tout à l'heure que on ne savait pas encore précisément quand commence l'homme, peut-on dire. Par quels critères peut-on le définir? Alors pour les Hébreux anciens, leur vision était quand il a reçu de Dieu un souffle de vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et saint Paul dira d'ailleurs dans son épître aux Corinthiens aussi, le premier homme devient une âme vivante. C'est-à-dire vivant, c'est-à-dire qu'il est capable de conscience, qu'il est capable d'analyse. Les Hébreux n'avaient pas, je vous répète, nos connaissances scientifiques, mais ils parlaient sous forme d'images pour indiquer un changement, un passage dans l'évolution. Alors comment, avec l'aide de la science actuelle, peut-on interpréter cette image de souffle de vie? Eh bien, peut-être quand l'homme a été capable de réfléchir consciemment. L'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal peut être vue comme la représentation de cette possibilité de franchir une étape dans le développement de l'homme, de passer d'un homme instinctif à un homme qui sait réfléchir. L'homme ici peut choisir consciemment ce qu'il fait. Il peut choisir de ne plus agir de façon instinctive, mais consciemment, en connaissance de cause. Il y a un revers, c'est que pour l'homme, cette liberté est un grand risque, car il peut continuer à s'élever, mais il peut aussi se détruire. S'il a cette liberté, il est important qu'il ait un guide du bon usage de cette liberté. Et là, l'incarnation du Christ prend tout son sens. Et le livre de la Révélation est là pour nous expliquer le bon usage de cette liberté. D'un point de vue biblique, comme d'un point de vue scientifique, les programmations que nous avons héritées du cerveau animal ne sont pas mauvaises. Je vous répète, la Bible dit « Dieu vit que cela était bon ». Et n'est-ce pas d'ailleurs ce cerveau reptilien et ce cerveau limbique qui nous ont permis de survivre et d'être encore là aujourd'hui? Mais saint Paul déjà nous invite à passer du vieil homme à l'homme nouveau qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Le Christ l'avait déjà dit dans son entretien aussi avec Nicodème. Nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. L'homme ne doit pas revenir en arrière, dans le ventre de sa mère, je veux dire vers un paradis, comme le pense Nicodème, mais il doit accoucher de sa part divine. Et cet accouchement n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. À nouveau, c'est un travail commun que l'homme est appelé. Et la troisième chose, la troisième conséquence du péché originel que voyait saint Augustin, c'est que tous ceux qui ne sont pas baptisés vont en enfer, même les bébés. Alors ce point aussi, malheureusement, avait été aussi accepté au Concile de Carthage en 418. Avec, je dois le reconnaître, une atténuation pour justement les enfants non baptisés, qui eux iront dans les limbes. Les limbes, c'était un espèce, je vais dire, de no man's land, entre l'enfer et le paradis. On n'avait pas les tourments de l'enfer, mais pas non plus la plénitude de la vie avec Dieu. Alors on peut dire que c'est vrai que l'Église s'est quand même toujours sentie un peu inconfortable avec cette assertion. Parce que si je reprends l'image d'un petit bébé, nous pouvons dire qu'un bébé, un petit enfant, est né dans l'innocence. Il ne peut pas encore discerner. Il vit de l'amour qu'il reçoit. Mais l'enfant, c'est vrai, porte en lui le poids du passé. L'enfant qui naît dans un pays, dans une famille, dans un pays, dans une certaine race ou quoi, dans une classe sociale, il reçoit de son milieu, du sous-ensemble humain dans lequel il est né, des informations, des idées, des préjugés, une vision du monde. Génétiquement et psychologiquement, l'enfant qui naît n'est pas un commencement absolu. Ce n'est pas une page blanche. Il hérite d'une longue tradition. Cependant, quand on reprend toujours dans l'Évangile, le Christ par deux fois va dire que le royaume des cieux, qui est ce que l'Église orthodoxe appelle justement la théosis, c'est-à-dire participer à la vie divine de Dieu, est pour les petits-enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et en Matthieu 19, il dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Oui, c'est vrai qu'un enfant qui naît a la potentialité d'un jour être capable de choisir librement. Mais il doit d'abord développer et éduquer, pour un enfant, c'est son néocortex. Pendant tout un temps, c'est essentiellement ces deux autres cerveaux, finalement, qui fonctionnent et qui le font vivre. Alors, il est difficile de concilier, justement, ces paroles du Christ avec une damnation des enfants, même non baptisés. L'enfant ne peut pas pécher tant qu'il n'est pas en mesure de prendre conscience de ses actes. Certains voient, dans l'idée du péché originel, le poids du passé sur son développement personnel. Alors, le baptême, à quoi est-ce qu'il sert? Mais le baptême est une grâce qui est donnée par Dieu à ceux qui veulent vivre une transformation, qui veulent vivre une évolution conforme à ce que recommande saint Paul pour aller donc vers la sanctification, aller vers la théosis, l'état de vie éternelle avec le Christ. Alors, l'Église, mais ici je parle de l'Église avec un grand E, pas les institutions, c'est l'assemblée de ceux qui veulent vivre cette métamorphose. Et le baptême est une adhésion libre à l'Église, donc toujours avec un grand E, c'est-à-dire au corps mystique du Christ. Nous devenons membres d'un corps dont la tête, en somme c'est celui qui guide, c'est le Christ. Et saint Paul disait, vous êtes le corps de Christ. Lorsque le Christ dit à Nicodème, « Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu », il nous invite ainsi à nettoyer nos vieilles programmations et à les transformer en un mode de vie conforme à l'esprit d'amour de Dieu. Nous sommes en droit maintenant de nous poser la question, mais est-ce que le péché originel est un péché au sens que nous avons vu au début ? C'est-à-dire tout ce qui vient contrecarrer cette entreprise de finalisation d'un être divinisable. Est-ce que cela a même un sens, finalement, de parler de péché originel? Ou est-ce que les premières couches, finalement, de son développement ancestral qui agissent toujours en l'homme et qui lui donnent ainsi une potentialité latente de faire un mauvais usage de sa liberté? Un mauvais usage, c'est-à-dire utiliser sa liberté non pour s'élever toujours plus vers la ressemblance avec Dieu, mais pour s'éloigner de Dieu. Une potentialité, ça signifie que ce n'est pas automatique et qu'elle peut être activée ou non. Et nous pouvons aussi aller plus loin. Le Christ en tant qu'homme à 100%, a-t-il un péché originel ? Alors si c'est un péché au sens augustinien, donc une faute, alors il y a un problème avec la personne du Christ. Il ne serait plus 100% homme, puisqu'il est dit sans péché. Et je comprends aussi pourquoi alors l'Église a introduit le dogme de l'Immaculée Conception. Je lui ai dit qu'il fallait s'en sortir de ce paradoxe. Si le péché originel est une potentialité de faire un mauvais usage de la liberté laissée à l'homme de coopérer à sa sanctification, alors il n'y a plus aucun problème. Le Christ est venu dans sa création en prenant à 100% la nature humaine de sa créature. Nature qui, dans son essence, est bonne. Et il vit avec ses potentialités, comme tout homme, de mauvais usage. Mais il ne l'active jamais. Le récit de la tentation de Jésus au désert prend sens. Il vient montrer à l'homme comment faire bon usage de sa liberté en vivant cette liberté dans toutes les strates de la nature humaine. Si Jésus n'avait pas cette possibilité de péché, cette potentialité de péché, pourquoi, je vais dire, excusez-moi le terme, cette comédie de Jésus tenté au désert? On pourrait aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme immédiatement achevé? Allez, faire un autre Dieu, quoi. Mais parce que l'homme n'a pas la nature divine. Seul Dieu a cette nature divine. Peut-être simplement aussi parce que justement la création n'est pas encore finie, qu'elle se continue encore aujourd'hui et que Dieu donne à l'homme à chaque instant la faculté de se terminer, de s'achever avec lui, avec Dieu. Et nous pourrions à nouveau reprendre l'image d'un enfant. Lorsqu'il naît, un enfant n'est pas achevé. Il doit encore grandir. Il n'est pas capable de manger un spaghetti ou de manger un cassoulet. Il n'est pas capable d'étudier à cet âge-là et d'expliquer la théorie de la relativité. Il devra apprendre, il devra expérimenter tout ça quand il aura atteint justement un état de développement qui lui permet de faire l'expérience. Dieu aurait pu tout donner à l'homme dès le début. Mais ce n'était plus de l'amour à ce moment-là. Il n'y avait plus de liberté, de libre choix pour l'homme d'adhérer à l'invitation de Dieu, de devenir semblable à lui. La perfection n'était pas au début de l'homme, mais elle est le but qu'il a devant lui. L'information du Créateur n'est plus transmise uniquement par notre ADN, mais l'homme peut librement choisir de la modifier, de l'adapter sous la guidance du Christ et de l'Esprit de Dieu, ou malheureusement de son orgueil. Et je voudrais terminer par cet écrit de Claude Tresmontant encore, donc tiré de Introduction à la théologie chrétienne. Et je dois reconnaître que je me suis inspiré assez bien de ses écrits quand j'ai préparé cet exposé. Donc il parle ici à propos de la liberté de l'homme. Le christianisme, par sa programmation nouvelle, entre en conflit non seulement avec les programmations biologiques que l'on peut considérer comme naturelles.
Quoi ? Un peu plus lentement.
Un peu plus lentement, ça va. Le christianisme, par sa programmation nouvelle, entre en conflit non seulement avec les programmations biologiques que l'on peut considérer comme naturelles et qui sont à dépasser par l'homme pour qu'il devienne ce qu'il est invité à devenir. L'homme ou la femme qui prennent la décision d'entrer dans le système de vie et de pensée que constitue le christianisme, qui veulent adapter cette nouvelle normative que constitue le christianisme, devront donc renoncer délibérément et consciemment aux anciennes normes, aux anciens systèmes de valeurs. Le déchirement sera forcément grand. L'apôtre Paul oppose ainsi ce qu'il appelle l'homme ancien à l'homme nouveau. Devenir chrétien, c'est devenir une créature nouvelle, informée, créée par une programmation nouvelle, fournie par l'enseignement du Verbe incarné. Le risque de perdition n'est pas quelque chose que l'on puisse éliminer de la doctrine chrétienne. Puisque l'humanité n'est pas achevée, puisqu'elle est en train de se former, puisqu'elle peut coopérer à cette formation, mais aussi bien s'y opposer. Il est possible que cette œuvre échoue et que l'humanité avorte, comme l'enfant que l'on tue dans le ventre de sa mère avant qu'il ne soit complètement formé. Si vous avez retenu, je vais dire, dans les quatre mots que j'ai pris ici, il y avait quand même un fil rouge, je vais dire, qui était que, d'abord, la création n'est pas terminée et que nous sommes toujours en évolution et que nous avons finalement la liberté de choisir vers quelle évolution on veut aller, quelle évolution on veut donner à notre vie. Est-ce que c'est une vie où ce qui va être le plus important, c'est le moi qui se referme sur lui-même? Ou bien est-ce une vie qui s'ouvre sur l'amour tel que Dieu nous l'apprend et qui nous invite à venir le rejoindre? Et aussi bien dans le mot de péché que dans le mot de justice, que dans le mot d'assès et dans cette notion de péché originel, nous avons retrouvé un petit peu ce fil rouge vu sous différentes facettes. Voilà.
Merci. Merci. Merci.